Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Décoscopie.
Décoscopie.
Le podcast du magazine Elle Décoration qui met des images plein les oreilles.
Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans ce format original, nous partons à la rencontre de personnalités de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Je suis Jean-Christophe Camuset et dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Charles de Castelbajac. Impossible de résumer en quelques mots une carrière qui s'étend sur plus de 50 ans et déborde tous les cadres. En effet, ce fils d'un ingénieur textile, né à Casablanca et débarqué à Paris à 17 ans à la fin des 60s, s'est toujours attaché à décloisonner la création. Dès les années 70, il révolutionne la mode en lui injectant sa vision à 360 degrés, perméable à toutes les formes d'art. La musique, omniprésente dans son univers, le street art, qu'il pratique après avoir été initié par Keith Haring, mais aussi la photo, la scénographie, la poésie. C'est le seul qui discute style et non mode, dira de lui son maître André Courrèges. Parmi les valeurs qui le guident depuis ses débuts, il y a le goût du détournement, le refus d'abandonner son regard d'enfant, la pop culture comme source inépuisable d'inspiration, et puis il y a le recyclage, dont Castelbajac fut un précurseur. Sa toute première veste, il la taille dans sa couverture de pensionnaire et parvient à la faire porter par John Lennon. Dès lors, il s'emploie à réutiliser les rebuts de son époque dans ses collections de vêtements qui forgent le style des années 80. Le design et la décoration l'ont toujours passionné. Au fil de sa carrière, il a dessiné des canapés pour Ligne Rosée, des tapis pour Tout le monde Bochard, une chaise pour Fairmob et plus récemment, une collection d'assises pour Maison Dada. Quand on lui a demandé quel artiste l'avait le plus influencé, il a d'abord voulu évoquer son ami Keith Haring, avant de se raviser et d'opter pour un maître méconnu de l'iconographie médiévale.
Décoscopie.
Un artiste?
Eh bien, c'est Villard de Honnecourt. Alors, Villard de Honnecourt, il a vécu au début du XIIIe siècle. C'est pour moi l'artiste complet. Total, bouleversant, brillant. J'ai d'abord découvert, grâce à mon parrain, qui était journaliste au Monde, les reproductions qu'il y avait dans son petit carnet d'architecte. Et l'éclectisme de ses dessins, qui vont de l'illustration, qui vont du dessin de colonnes, du dessin de voûtes de cathédrales et des dessins d'architecture, m'ont donné envie de développer cette idée de renaissance humaine, ce que les Français appellent d'une manière très réductrice « touche à tout hein ». Donc, Villard de Hennecourt est ce premier touche à tout de génie qui a marqué mon chemin d'artiste. Et son petit carnet est à la Bibliothèque nationale. Il doit y avoir pas plus de 34 pages. Il y en a qui ont été perdues, mais celles qui sont perdues, j'essaye de les compléter.
Une musique.
C'est « Please, please, please » de David Shaw and the Beat. En fait, c'est plutôt symbolique ce choix. C'est un électro extrêmement minimaliste, un peu 80, un peu naissance de l'électro, Human League, Trembling Gristle, Neuil, The Normal, tous ces groupes qui me fascinaient par cette possibilité de son un peu... sale, j'allais dire. Il y a une sorte de mélancolie. Hein. Il est chargé de quelque chose d'assez sombre, comme l'étaient les mélodies de Suicide et d'Alan Vega. Je dirais que c'est ce côté post-moderne sombre qui me plaît dans le travail de David Shaw, qui est un artiste belge et qui n'est pas assez connu. La musique et surtout ce type de son ont toujours propulsé mon imaginaire sur les podiums, sur les installations, dans mon art, dans toutes ces possibilités. À tout moment de ma carrière, j'ai accompagné d'un tissu digital ou d'un tissu musical mes créations, voilà, et mes récréations aussi.
Un son.
Alors c'est mon cadeau d'anniversaire. J'ai eu ce cadeau il y a 2 ans. Ma femme Pauline me l'a offert. Et en fait, c'est un tout petit synthétiseur, très bien dessiné, d'une manière essentielle, avec 2 faces. Donc, il est parfait pour un duel musical. Ce duel, je le pratique avec ma fille, Eugénie, souvent, ou avec des amis comme des maîtres de la musique, comme Bertrand Burgala. Lorsqu'il vient à la maison, il se met sur cette machine. C'est vraiment l'essence même du jouet rêvé. Ne sachant pas composer, j'arrive à être vraiment le plus grand compositeur sur cet appareil. Donc il y a un séquenceur, il y a une boîte à rythme, il y a une distorsion, il y a tous les éléments qui peuvent changer le son en quelque chose d'onirique, de bizarre et de troublant. Et il n'y a pas de clavier, il y a des touches. Il y a des touches qui sont aussi des couleurs. Et en fait, lorsque j'ai installé mon exposition « Le peuple de demain » au Centre Pompidou l'année dernière, qui a eu un grand succès, puisqu'on a eu 150 000 visiteurs, lorsque j'ai travaillé avec Julien Granel, qui est un musicien très talentueux, on est parti de cette idée que les sons étaient des couleurs, que les sons étaient des signes et que les signes étaient des sons. Et la rencontre avec le public a été extraordinaire de cette approche, parce qu'on a créé le synthémo, c'est-à-dire le synthétiseur des émotions. On a créé une marelle musicale qui déclenche, qui est comme un jaillissement d'une source émotionnelle. Voilà, et je suis très heureux parce que cette exposition maintenant va voyager. Elle part à Shanghai, ensuite à New York, à Malaga, et elle va faire le tour du monde. Voilà, du peuple de demain.
Un film.
Where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of.
This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
It's not every man that can live off the land, you know. You do your own thing in your own time. You should be proud.
Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider.
Man, look, I gotta get out of here, man. We got things we want to do, man. Like, I gotta get out of here, man.
Co-starring Jack Nicholson.
I got to scissor happy beautify America thing going on around here. They're trying to make everybody look like Yul Brynner.
Le premier film qui a marqué l'adolescent que j'étais, c'était Easy Rider. C'était l'idée de partir sur ma moto, de traverser des contrées. Et en fait, je suis toujours dans Easy Rider. Je suis toujours dans un road movie. Je suis toujours à la conquête, en quête de mystère, en quête de questionnement, en quête d'émotion, en quête de curiosité. Donc, j'aime cette idée de non seulement parce que je suis un biker et que j'ai eu beaucoup de Harley et de moto dans ma vie, que j'ai même pas le permis de voiture, que j'ai le permis de moto, mais j'aime ce goût du risque, ce goût du danger, de me mettre en danger. La dernière fois que je me suis mis en danger, c'était il y a une semaine. Je me suis aperçu que je dessinais trop bien. J'avais passé 73 ans de ma vie à la conquête de ma main gauche et finalement, elle répondait. Alors, je dessine avec une dextérité et une rapidité extraordinaire. Je le vois quand je dessine mes anges à la craie dans la rue, je peux les faire vraiment facilement en 15 secondes, 20 secondes, j'arrive à dessiner un ange. Et donc, fatigué de cette conquête, j'ai décidé de commencer un autre processus. Et j'ai acheté une paire de ciseaux et j'ai commencé à faire des découpages dans la toile que je peignais pour faire des collages. Et là, à ma grande surprise, je me suis aperçu que la main la plus agile que j'avais pour faire ces découpages, c'était ma main droite qui était restée endormie pendant 73 ans. Donc voilà, je suis parti à la conquête de ma main droite là.
Un livre.
Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête, s'acharnant sur un navire, sous un ciel sans étoiles. Je suivis, dans une attitude triomphante, toutes les péripéties de ce drame, depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres, jusqu'au moment où il s'engloutit. L'habit fatal qui entraîna dans les boyaux de la mer ceux qui s'en étaient revêtus comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait où j'allais moi-même me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Alors, c'est les chants de Maldoror, de l'autre Éamon. En fait, lorsque je suis arrivé à Paris à 17 ans, mon rêve absolu, c'était de rentrer dans un cercle littéraire secret qui s'appelait La Phalène. Et on m'a opposé que je n'avais pas lu Maldoror. Et j'ai lu ce texte très complexe et je l'ai déclamé devant ces maîtres dont certains traduisaient Heidegger. Et j'ai été accepté à La Phalène. Donc, il était comme un mur de mots pour rentrer dans Paris. Il était le mur de mots pour rentrer dans Paris. Après, j'en ai trouvé d'autres, des voiles de mots. J'ai trouvé Proust. Et à chaque fois, c'était une étape de connaissance. Peut-être est-ce parce que ma représentation romanesque de Paris s'est faite au travers de Balzac et de Rastignac, de Rubempré, des Illusions perdues, de Splendeur et misère des courtisanes. Mais Paris, pour moi, c'était une porte de mots.
Un artiste.
Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Francis Picabia.
Francis Picabia, n'y a-t-il pas de peinture sans poésie?
C'est impossible.
Il vous paraît absolument impossible.
Impossible. Et il faut qu'un homme soit poète en lui-même, n'est-ce pas, pour pouvoir un désir de s'exprimer uniquement pour lui, une satisfaction complète, n'est-ce pas, d'une émotion que la vie lui a donnée, que ce soit une émotion de paysage, de fleurs, de n'importe quoi, c'est cette émotion poétique qui le pousse à s'exprimer.
J'aime profondément Francis Picabia parce que chaque fois que je vois un tableau, je peux me poser la question de qui l'a peint, en fait. Il est très déconcertant, il est inclassable. Il est en quête toujours d'expérience, de renouveau, d'étonnement, de danger, comme on l'évoquait juste avant. Il y a une très belle biographie de lui par Marc Cadet qui s'appelle Rastaquer. Et on sent que durant toute sa vie, il n'est pas compris. Mais il n'est pas compris aussi à la manière de certains dadaïstes comme Raoul Haussmann. Était-il photographe? Était-il peintre? Était-il performeur? C'est tout à la fois. Je me souviens d'avoir failli, dans les années 70, acheter un très beau dessin de Picabia. Et je ne l'ai pas fait, et je le regrette encore. Cette interview, c'est son grain qui me touche, c'est sa voix. En fait, je trouve que ces interviews qui viennent de décennies antérieures, de la nuit des temps, quand on écoute Colette, quand on écoute Cocteau, quand on écoute toutes ces voix venues d'ailleurs, elles ont la force d'une expérience ectoplasmique, pratiquement, hein, comme si ces êtres, par leur voix, sont encore avec nous. Donc, j'ai été heureux de découvrir la voix de Picabia.
Une œuvre d'art.
J'ai choisi Paolo Cello parce que ce tableau, La bataille de San Romano, est comme une mécanique du temps, en fait. La première fois où je l'ai vu, c'est aux Uffizi, je n'en ai vu qu'un tiers. Il y a une autre partie du triptyque à Paris et une autre à Londres, au British Museum. Et cette incarnation de cette bataille, de cette petite bataille de la Renaissance, est tellement maîtrisée au travail d'Uccello, et elle raconte déjà le rythme. Il y a un rythme pratiquement musical. Le mouvement des lances fait que lorsqu'on voit ce tableau, on a le sentiment d'en voir le squelette, d'en voir le spectre. Et on s'aperçoit que le rythme des lances a inspiré d'une manière considérable la peinture contemporaine, et ensuite, par exemple, Duchamp, le nu descendant l'escalier, par la notion du rythme, mais surtout un photographe extraordinaire qui s'appelait Edward J. Muybridge. Edward J. Muybridge est le premier qui, avec un système photographique de décomposition, arrive à voir comment le corps fonctionne. Et c'est lui qui a prouvé que les chevaux au grand galop n'avaient pas leurs quatre sabots touchant le sol. Donc, c'est un tableau qui a une conséquence, qui se déroule dans le temps. Et c'est un tableau qui m'émeut toujours autant. Je suis parti de ce tableau pour constituer la mise en scène de mon exposition « Le peuple de demain » en faisant un jaillissement de lance pour qu'on voit mon installation de loin.
Un endroit.
C'est le lieu où sont réunis ceux que j'aime. En fait, je dirais que ça pourrait être ma maison, ma vieille maison dans le Gers. Mais c'est plus que ça. C'était, par exemple, ce Noël, être réuni avec tous mes enfants, mes petits-enfants, ma femme. Et cette idée de ciment, en fait, ce qui est la famille. Alors, la famille, lorsqu'on est Enfant, adolescent, on la voit parfois comme quelque chose de difficile. Et plus on avance sur ce long chemin de la vie, plus on la voit comme un rendez-vous, comme quelque chose qui est lié à la transmission, à la magie du partage. Je viens d'être de nouveau grand-père d'un petit Armand. Il y avait ma fille qui a 3 ans, Eugénie. Toute cette idée, il y a une très belle chanson de Vassiliou qui s'appelle « Dans ma maison d'amour ». C'est ce concept de la maison d'amour où on peut y retrouver la famille, les amis, les frères choisis, les sœurs choisies, l'âme des ancêtres, l'âme de ceux qui ont vécu ici avant et être en fait réunis pour célébrer ce ciment qu'est l'amour. Voilà, c'est là où je me sens le mieux. Alors ça peut être sur une plage, très loin, ça peut être dans le Gers, ça peut être en Bretagne, ça peut être à Genève. C'est là où sont ceux que j'aime.
Décoscopie. Retrouvez tous les épisodes du podcast Décoscopie en ligne sur toutes les plateformes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.